Voilà. Alors, écoutez, j'ai tenté de répondre aux questions qui m'avaient été posées. Je vais certainement y répondre imparfaitement sous certains aspects du fait de mon manque d'expérience aussi concernant l'enseignement, notamment l'enseignement du secondaire et du primaire. Mais on va essayer d'avancer sur ces différentes questions. Donc, sur la première qui concerne le moment où histoire et mémoire se rencontrent, je dois dire que autour de la question de l'esclavage, pour moi, cet objet s'est construit en dehors de l'espace hexagonal. Alors, c'est important de le dire parce que vous verrez qu'ensuite j'ai été obligée d'y revenir à cet espace hexagonal et justement là pour traquer ce qui pouvait être des silences et qui allait plus loin qu'une critique d'une historiographie, mais qui allait jusqu'à une interrogation sur la nation française et sur la notion de république, qui permet de récupérer des débats assez contemporains. Puisque en effet, autour de la question de l'esclavage, autant il y a eu une sorte de désintérêt institutionnel pendant de longues années, je pense. Quand je dis des intérêts institutionnels, je parle là de l'université, du réseau universitaire français et du CNRS, enfin des instances de recherche, ce qui ont fait que pendant longtemps, on n'a pas vraiment recruté autour des questions d'esclavage, et que moi, j'ai parfaitement conscience que si j'étais recrutée au CNRS, c'était plus pour le travail que j'avais fait en démographie historique, qui renouvelait des méthodes, de démographie historique, d'études de la famille, que parce que je m'intéressais à des sociétés qui étaient des sociétés esclavagistes. Ça, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Donc, entre-temps, tout a changé, mais on y reviendra. Donc, c'est cet objet, mémoire, et plus particulièrement mémoire de l'esclavage, je le disais, je l'ai construite en dehors de l'espace hexagonal. Tout simplement en lisant les archives qui se trouvent notamment à la Martinique et à la Guadeloupe, qui est mon espace de compétence, et en lisant les archives autour d'un événement fondateur qui est celui de la seconde abolition de l'esclavage, donc 1848. Où là il y a plusieurs temps qui se rencontrent. Il y a à la fois ce temps local et aussi ce temps national, et qui très récemment est devenu un temps global, mais j'y reviendrai. Pour l'instant, ce qui concerne ce temps local, il y a un événement fondateur dans les colonies antillaises, dans les ex-colonies antillaises devenues départements français en 1946 par la loi départementalisation. Il y a un événement fondateur qui est le soulèvement des esclaves du 22 mai 1848. C'est un événement fondateur d'une mémoire héroïque autour des esclaves, qui va provoquer l'abolition anticipée de l'esclavage le 23 mai 1848, c'est-à-dire un jour après ce soulèvement des esclaves. Alors, pourquoi construire cet événement en tant qu'événement héroïque? C'est que cet événement héroïque a été construit plus particulièrement par Aimé Césaire à partir des années 1948, où il fait un discours à la Sorbonne lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage, où pour la première fois il parle de ce soulèvement des esclaves. Et à partir de, alors Aimé Césaire est membre du parti communiste à ce moment-là, il fait un discours qui vraiment va être un discours fondateur, puisqu'il va remettre les esclaves au centre du processus d'abolition, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors. Alors, c'est là où le temps local et le temps national se croisent, puisque en effet, la décision d'abolition de l'esclavage va être prise lors de la seconde République, dès l'instauration de la Seconde République, à l'issue d'un mouvement abolitionniste qui a été de plus en plus virulent, de plus en plus fort à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir du soulèvement des esclaves de Saint-Domingue. Petite parenthèse, je rappelle que Saint-Domingue était la plus grosse colonie française, que grâce à Saint-Domingue, la France assurait assurer une balance économique qui était positive, c'est-à-dire que non seulement le sucre produit par Saint-Domingue était consommé par la France, mais qu'en plus, ça donnait lieu à des exportations qui étaient très importantes. Donc Saint-Domingue, ce fleuron de la colonisation française, du premier mouvement de colonisation, et peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ces questions-là. Saint-Domingue, donc fleuron de la colonisation française, est perdu par la France, alors à la suite d'un long processus qui est là aussi de soulèvement d'esclaves et aussi de la volonté de Napoléon, de Bonaparte à l'époque, de rétablir l'esclavage en 1802. Puisqu'il y a une première abolition de l'esclavage, c'est une particularité de la France. La France a connu deux abolitions de l'esclavage. Une première en 1794 et puis une seconde en 1848. Entre-temps, après cette première abolition de l'esclavage, Bonaparte donc tente de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, justement à cause de cette importance économique des colonies. Et notamment par rapport au fait que Saint-Domingue est vraiment la colonie qui va permettre à Bonaparte, selon son plan, de réorganiser tout l'espace colonial français, notamment en comprenant la Louisiane. Bon. Je faisais cette parenthèse parce qu'elle est importante justement dans la construction de ce moment historique. Du soulèvement des esclaves de la Martinique, mais aussi parce que elle est importante dans le fait que la Seconde République ne se pose aucune question sur le fait qu'il faut abolir l'esclavage. Enfin, c'est devenu un scandale, un crime de lèse-humanité, va dire le Dreux Rollin. Donc, il faut abolir l'esclavage. C'est effectivement ce qui se passe le 27 avril 1848. Et cette Seconde République va prévoir que deux mois après cette promulgation, enfin cette décision, justement le décret d'abolition de l'esclavage va être promulgué dans les colonies françaises. C'est-à-dire qu'il y a un délai entre ce que va décider la Seconde République et l'application effective de ce décret d'abolition, tout simplement parce qu'il faut garantir la récolte de sucre, qu'il ne faut pas perdre cette richesse, donc on va différer dans le temps cette promulgation. Et c'est justement ça qui va conduire au soulèvement des esclaves de la Martinique du 22 mai 1848, parce qu'on est dans un monde qui n'est pas clos, les nouvelles circulent. Depuis des mois, on sait, et les esclaves comme les maîtres savent très bien que l'abolition de l'esclavage va avoir lieu, va être effective, et les tensions, vous pouvez l'imaginer, augmentent de plus en plus. Il y a des refus de travail de la part des esclaves, des heurts qui sont assez violents, ce qui fait que par un ensemble de faits de tensions qui sont cristallisées et exacerbées, on arrive à ce soulèvement des esclaves du prêcheur le 22 mai 1848 et à la décision du gouverneur général de la colonie de promulguer l'abolition de l'esclavage avant même l'arrivée du décret qui doit arriver donc de la métropole. Alors ça c'est pour la Martinique, 23 mai 1848, abolition de l'esclavage. Le 27 mai 1848, c'est l'abolition de l'esclavage pour la Guadeloupe. On le fait une semaine après la Martinique parce qu'on a peur que la Guadeloupe soit à feu et à sang comme la Martinique. Et puis, troisième colonie de cet espace américain, c'est la Guyane, l'abolition de l'esclavage est promulguée selon le calendrier officiel le 10 août 1848, parce qu'on est dans une société qui est vraiment très différente dans sa composition et qui n'a pas bougé autour de l'annonce de l'émancipation. Juste pour mémoire, je vous rappelle que l'esclavage sera aboli à l'île de la Réunion le 10 août 1848. Donc avec là aussi un délai qui est dû au fait que les colons de la Réunion offrent une résistance assez forte à cela. Et puis Autre colonie de la France à ce moment-là, c'est le Sénégal, et là aussi l'abolition de l'esclavage va être différée pour des va être promulguée mais pas appliquée pour des raisons qui sont proprement locales. Aimé Césaire, lors de son discours de la Sorbonne, lui, il va parler du 22 mai 1848. Donc, il ne parle pas de la promulgation de l'abolition de l'esclavage, mais il va parler du soulèvement des esclaves. Et c'est une façon, donc, de rétablir, dans une forme qui est dialectique, vous comprenez bien la forme de son discours, c'est le fait de rétablir les esclaves comme moteur de l'histoire et non pas comme acteur attendant simplement qu'on leur octroie la liberté. Le terme d'octroyer est un terme qui est important parce que justement tout le débat autour de la mémoire de l'esclavage va se nouer autour de ces termes. Est-ce que c'est une liberté qui a été octroyée par la France? Est-ce que c'est une liberté qui a été arrachée par les esclaves de la Martinique? Tant et si bien que ce moment, au fil des années, un moment qui était passé quasiment inaperçu, enfin ce moment du 22 mai, qui était passé quasiment inaperçu dans l'historiographie de tous bords d'ailleurs, va au fil du temps devenir la date la plus importante, et elle l'est actuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu une revendication qui a augmenté autour de ces dates-là. Et vous le savez peut-être, depuis 1981, il y a des dates locales pour célébrer, commémorer l'abolition de l'esclavage. Et dans les départements français d'Amérique, Martinique, Guadeloupe et Guyane, on a 3 dates de commémoration d'abolition de l'esclavage. Qui est pour la Martinique, il s'agit du 22 mai, pour la Guadeloupe du 27 mai. Voilà. Donc on a un événement qui petit à petit s'est construit, une mémoire qui s'est revendiquée de plus en plus comme une mémoire active autour des esclaves qui vont arracher leur liberté. Et ça vous explique tous les débats qu'il y a eu ces derniers temps, quand il a fallu trouver la date de commémoration nationale, cette fois-ci, de l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il y a eu des tensions très fortes qui se sont faites, où là on retrouvait aussi cette opposition entre les DFA et puis la métropole, où finalement tout le monde revendiquait une date d'abolition de l'esclavage, où la date nationale, c'est-à-dire le 27 avril 1848, était intenable pour les DFA, c'est-à-dire ne pouvait pas être revendiqué comme date d'abolition de l'esclavage. Et finalement, on est arrivé à un compromis dont on peut largement discuter, qui est le choix de la date du 10 mai pour célébrer l'abolition de l'esclavage à un niveau national et non plus à un niveau local. Et que vous le savez certainement également, le 10 mai est la date de promulgation de la loi Taubira, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc voilà, on arrive à ce compromis national, mais qui en dit long sur ces différences et sur ces oppositions entre une France dite d'outre-mer et puis une France plus hexagonale. Donc, gestion de la mémoire au niveau des départements français d'Amérique, qui s'impose comme élément extrêmement important, et en tout cas comme élément politique de négociation de la relation avec la métropole, qui va s'imposer très rapidement. Pour quelle raison ? Les républicains martiniquais, enfin d'ailleurs comme guadeloupéens et même comme guyanais, vont revendiquer l'oubli de l'esclavage localement. Ils disent il est nécessaire que nous oublions toute cette histoire où nous étions dominés, et maintenant nous allons considérer que la République crée un point zéro, c'est-à-dire que la République est le début de notre histoire, une histoire qui est faite maintenant de liberté et d'égalité. Il est très important de comprendre que il y a une adéquation extrêmement forte entre la République et la liberté. Ce sont des notions qui, au XIXe siècle, sont utilisées de façon absolument équivalente. Quand on dit République, on dit liberté. Et quand on dit liberté, on dit République. Ce sont des notions qui sont très fortes. Et il est important de le savoir parce que ça va expliquer aussi tous les problèmes qui vont être générés par la suite dans cette tension. Parce que la métropole n'entend pas cette équivalence, elle ne l'entend pas de la même façon que dans les départements français d'Amérique. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots clés de cette période d'abolition de l'esclavage. D'autant que la République, et là c'est le point qui est aussi très important par rapport à l'ensemble de la Caraïbe, de l'ensemble de l'espace colonial caribéen, c'est que la République française va donner à la fois la nationalité et la citoyenneté aux anciens esclaves. C'est-à-dire qu'immédiatement, à l'émancipation, les esclaves deviennent français, ce qu'ils n'étaient pas avant, puisque... Bon, je rappelle le texte de Goyer qui dit « on ne peut être français que si on est libre ». Là, la liberté, justement, va entraîner ce statut de français. Au XIXe siècle, on est dans une superposition entre les notions de citoyenneté et de nationalité. Les anciens esclaves deviennent immédiatement, à l'abolition de l'esclavage, ils deviennent français et ils ont le droit de vote. Et ce qui est vraiment là un point très particulier, parce qu'on a les autres colonies, qu'elles soient anglophones ou hispanophones, la question va se poser très très différemment. Le drapeau français devient aussi un emblème extrêmement important. Et dans tous les textes du XIXe siècle, là je vous parle du XIXe siècle, mais aussi sous la Troisième République, c'est la même chose. Le drapeau français est vénéré. Il est le symbole de la liberté. La France est aussi vénérée pour cette raison-là. Je vais peut-être clore cet espace local pour parler plutôt de l'espace national. Je demande s'il vous plaît de m'arrêter parce que j'ai pas regardé que j'ai commencé. D'accord. Très bien. Alors, je fais les choses rapidement. Donc, moi aussi, je l'ai, mais j'ai pas noté le début. C'est pour ça. Je suis dit. Donc, sur l'espace national. Donc, vous voyez cette équivalence entre République, liberté extrêmement importante, que j'ai abordée par le biais des archives antillaises. Et que j'ai essayé de tester dans l'espace hexagonal. C'est-à-dire que ma démarche a vraiment été de passer par l'extérieur pour revenir vers ce qui est le centre, qu'on le veuille ou non. Et là, j'ai commencé à regarder les ouvrages d'histoire, notamment ceux de la Troisième République, qui ont été, Michelet, Renan, Augustin Thierry, enfin, tout cet ensemble de textes, pour voir précisément comment ce moment d'abolition de l'esclavage était décrit dans les manuels, c'est plutôt les livres d'histoire qui sont extrêmement importants à ce moment-là, où il y a vraiment une cristallisation de la mémoire française et où on essaye de définir ce que c'est que la nation française. Et je dois dire que j'ai abordé ces textes sans aucun a priori, sur ce qu'il pouvait contenir. En revanche, j'ai eu tout de même quelques surprises le faisant, c'est que je me suis aperçue que tous les événements qui sont fondateurs réellement à la fois de la colonisation française, mais aussi tous ces événements révolutionnaires autour de la libération des esclaves ne sont absolument pas décrits dans les manuels, enfin dans les ouvrages d'histoire, qui je le répète sont très importants au XIXe siècle et à la fin surtout du XIXe siècle, puisque c'est cette histoire-là que l'on va aller enseigner aux petits français. Rappelez-vous que quand je dis petits français, il faut comprendre aussi les petits français de l'outre-mer. C'est cette histoire qu'on va aller décrire, qu'on va donner à connaître à tous ces petits Français, et que cette histoire aussi permet réellement de définir ce que c'est que la nation française. Il y a une adéquation très forte, comme vous le savez, autour de ces textes-là. Or, quand on les prend, il n'y a absolument aucun élément sur la révolution, par exemple, de Saint-Domingue, qui, je vous le répète, est un événement qui est absolument important. Il n'y a rien non plus sur les esclaves et sur sur ce qui se passe en 1848 dans les colonies françaises. On a simplement une mention de la République 1848 abolit l'esclavage. Donc on est vraiment dans une description de l'histoire qui est absolument tronquée, et qui, même si on va un petit peu plus loin dans l'analyse des textes, montre que la France qui est donc donnée à connaître à la fin du XIXe siècle est une France qui est strictement hexagonale, où les références à l'esclavage ne sont pas des références à l'esclavage colonial, mais à l'esclavage grec, où là effectivement il y a une filiation qui est bien admise avec les esclaves grecs revendiquant la liberté, en tout cas évacuation totale de ce qui se passe dans l'espace colonial. Et si on va même encore un petit peu plus loin, et là j'en appelle au texte de Seigneur Bosse sur l'histoire sincère de la nation française, où Seigneur Bosse dit « La France est constituée d'un métissage de peuples, mais la précision qu'il apporte, c'est que ce métissage des peuples, ce sont des peuples qui sont tous blancs. » Donc métissage effectivement de la nation française, mais un métissage qui dit un sens. Et là, je pense que ce sont des textes qui sont très importants, parce que ils révèlent en fait tous les implicites de l'universalisme. C'est-à-dire que l'universalisme, même s'il ne s'est pas dit comme tel, même s'il s'est, il a une proposition de mise à égalité de tous les acteurs, a des implicites qui sont ceux-là, et qui ce sont des implicites raciaux. Et j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui s'est mis en place à ce moment-là, où la nation française, c'est très clair, elle est hexagonale et elle est blanche. Donc voilà, même si elle ne s'est pas dite comme telle, mais le message qui a été transmis est bien celui-là. Et je pense, enfin il me semble que justement tous les débats, toutes les oppositions qu'il y a eu ces derniers temps, et notamment au sein du groupe des historiens, enfin tous les malaises historiens qu'il y a eu ces derniers temps, repose sur cette difficulté de concevoir un universalisme qui serait un petit peu différent. C'est-à-dire, c'est d'abandonner cette idée que la France ne peut être que blanche, sous prétexte qu'il y a un péril de la République à le faire. Donc, qui, à mon sens, ne se peut pas se concevoir comme tel, mais en tout cas, qu'il y a ce péril, et on est arrivé, me semble-t-il, à une sorte de clivage entre un référent mémoriel qui est gaulois. Alors on peut en parler, enfin je pourrais le décliner plus si vous le voulez, mais où il y a un référent mémoriel qui se dit gaulois avec l'implicite qu'il est blanc. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas. Enfin, je serais d'accord sur le fait qu'on se mette d'accord sur le fait que la mémoire française est une mémoire gauloise. Je veux dire, ça ne me poserait pas franchement de problème si, par ailleurs, il y avait des pratiques non discriminatoires. Voilà, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a à un moment donné un consensus qui se fasse sur ce que c'est qu'une nation, et qu'on décide d'une origine, puisque ce sont des origines qui sont mythiques de toute façon, mais si, par ailleurs, l'implicite n'était pas celui-là, n'était pas de dire oui, les Gaulois étaient forcément blancs et la nation française va l'être forcément. Enfin, toujours est-il que il me semble qu'il y a ces derniers temps donc cet affrontement entre des historiens qui ont cette référence et puis des historiens qui ont un référent qui se veut beaucoup plus pluriel, ou en tout cas qui réclame qu'on introduise de la pluralité dans l'universel. Je crois que ça, c'est les deux grands clivages qu'il y a en ce moment en France, et sur lequel il faut réellement travailler, me semble-t-il, pour que justement cette République, finalement, enfin, à laquelle je pense beaucoup de personnes tiennent, ne soit pas plus malmenée. Je finirai donc simplement en disant que la situation française, c'est-à-dire cette revendication mémorielle, et notamment cette revendication mémorielle autour de la question de l'esclavage et autour de la question du colonial, elle n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire que cette revendication mémorielle, on l'a trouvée dans beaucoup d'autres pays. Et je vous donnerai comme référence le numéro spécial de Politique africaine sur passés coloniaux recomposés, mémoire grise en Europe et en Afrique, qui montre bien comment les politiques de revendication mémorielle, de pardon, se sont développées dans différents pays, comment il y a eu ces revendications de politiques de réparation qui se sont développées. Par exemple, je vous donnerai un exemple qui est celui de la restitution par l'Italie de l'obélix d'Aksum en Éthiopie, qui obéit exactement à la même logique que d'une revendication, des revendications mémorielles. Et j'en appellerai aussi un autre exemple, qui est celui du combat qu'il y a eu dans les années 1970 aux États-Unis, où les États-Unis, où il y a eu vraiment des tensions au sein de la société américaine, pour faire admettre que l'idée que l'esclavage n'était pas un phénomène marginal, mais qu'au contraire, c'était un phénomène constitutif de l'histoire américaine. Et je pense que là aussi, la France, qui donc n'est pas exceptionnelle dans ce qui se passe actuellement, a certainement ce trajet à faire. Parce qu'il me semble qu'en France, il y a vraiment une difficulté de la société d'intégrer la totalité de son histoire, et non pas d'intégrer. Je pense qu'il est contre-productif de chercher à construire une histoire qui ne serait que partielle, et que cette intégration de l'histoire ne signifie pas qu'on est dans une démarche de repentance, comme il y a eu deux ouvrages récemment qui ont été écrits par Daniel Lefebvre et puis Glucksmann sur la repentance. Je pense que ce sont de faux débats, enfin en tout cas des débats qui obéissent à des objectifs qui ne sont pas ceux affichés. Mais ça, on pourra en discuter. Et il me semble qu'il est vraiment indispensable et utile qu'il y ait cette réintégration de la totalité de l'histoire de la République française, et non pas une marginalisation. Je dirais que si, aussi pour conclure, que si l'on prend la durée de vie de la République, comme le rappelle Bogumil Vicky, la République a passé plus de temps en étant esclavagiste et coloniale qu'en étant abolitionniste et anticolonialiste. Donc je pense que là, c'est quelque chose qui montre comment on ne peut pas ignorer ces questions-là. Et pour répondre à la question, je suis pas sûre d'avoir bien répondu d'ailleurs à toutes ces questions-là, sur l'enseignement, voilà. Autant je suis d'accord, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait cet enseignement d'une histoire qui serait complète, c'est-à-dire qui intégrerait esclavage et colonisation. En même temps, il me semble très important de ne pas construire d'assignation identitaire des enfants. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'histoire de l'esclavage et de la colonisation, mais mon collègue en parlera, appartient totalement à l'histoire nationale. Là, je pense qu'il y a un décloisonnement qui est à opérer. Il y a une sorte d'homogénéisation du discours national à faire. Mais autant on ne peut pas enseigner plus particulièrement l'histoire de l'esclavage et de la colonisation dans des quartiers où on suppose que les enfants sont issus de la colonisation et de l'esclavage. Je pense que ça, c'est extrêmement important. L'enjeu est national. Il n'est pas destiné simplement à des lieux comme ça qui seraient des sortes de réservoirs d'anciens descendants d'esclaves ou d'anciens coloniaux. Ça, je crois que c'est une question très très importante et qui avait été développée par Sayad sur la question de l'ethnicisation de l'autre. Et là, je pense qu'il faut pas ethniciser les élèves non plus. Enfin, il faut leur laisser la possibilité d'avoir recours à cette mémoire de l'esclavage ou de la colonisation, mais vraiment leur laisser le choix. Ça me semble très 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 important. Voilà, je m'arrête.